100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
Bonjour à tous. Un président français qui promet le retour des œuvres d'art africaines. C'était à Ouagadougou en 2017. 3 ans après, où en est-on? L'Assemblée nationale à Paris vient de voter un projet de loi sur la restitution de 30 œuvres d'art béninoises et d'une œuvre sénégalaise pillée durant la période coloniale. Un premier pas ou une simple goutte d'eau quand on sait que 90% du patrimoine culturel africain se trouve à l'étranger. Léa Lisa Westerhoff est allée interroger les principaux acteurs de ce vaste chantier.
On a une invitée qu'on a rentrée dans Anaïs.
Oui.
Madame Westerhoff.
Oui,
tout à fait.
Installée dans les bureaux de l'Assemblée nationale, avec vue sur les toits de Paris et les Invalides, Marion Laine, rapporteuse de la Commission des Affaires étrangères, continue de se réjouir. 3 semaines après l'adoption en première lecture et à l'unanimité par les députés d'un texte de loi qui acte la restitution définitive de 26 pièces béninoises pillées au palais d'Abomey en 1892 par les Français, tout comme le retour d'un sabre royal au Sénégal, pour Marion Laine, qui a participé à l'examen de ce premier projet de loi, une véritable étape a été franchie.
C'est un grand pas en avant, je trouve, pour l'humanité globalement, hein, pas uniquement pour le Bénin, pour le Sénégal. Et puis le concept aussi de circulation des œuvres, qui est plutôt anglo-saxon, hein, on n'est pas tellement dans cette phase-là, nous, les universalistes du musée. Mais ça nous fait avancer, nous, la France, sur cette vision-là de ce qu'est le musée, ce qu'est l'œuvre d'art et comment on la démocratise.
Car la France cultive une spécificité, celle de l'inaliénabilité de son patrimoine culturel. En clair, une œuvre d'art dans un musée français ne peut être cédée ou rendue, sauf si elle est déclassée, retirée du patrimoine français. Une difficulté qui justifie, selon ses défenseurs, que la restitution des œuvres béninoises et sénégalaises passe par une loi d'exception. Mais pour de plus en plus de voix de la diaspora africaine, ce processus est bien trop lent et compliqué.
Vous avez pris soin de tout verrouiller parce que j'allais venir.
Cette voix, c'est celle d'Emery Mwazulu Diabanza, un militant congolais qui s'est illustré en tentant de s'emparer, en plein jour et face à des caméras, d'un poteau funéraire au musée du Quai Branly en juin dernier, ou comme sur cette vidéo où il découvre les nombreuses œuvres congolaises conservées au musée d'Anvers. Pour le militant, plus de 60 ans après les indépendances africaines, ce processus de restitution est beaucoup, beaucoup trop lent. Emery Mwazulu Diabanza.
Pour nous, la restitution, c'est maintenant. Et sans condition aucune. C'est-à-dire que nous voulons récupérer tout en partant d'abord par les chefs-d'œuvre. Maintenant, sans aucune forme de formalité, sans aucune condition. Parce que tout ce qui a été pris de force doit être restitué. Il faut une démarche globale de toutes les œuvres, pas une loi d'exception. Vous voyez bien que l'exception confirme la règle, on dit en français. C'est-à-dire que toutes les nations occidentales et les dirigeants européens doivent trouver en eux cette force, au plus profond d'eux-mêmes, pour condamner tous les mal qui a été fait. C'est une perche que nous leur tendons pour purger leur mémoire durant tous ces siècles d'ignominie et de mensonges.
Et de rappeler les demandes de restitution anciennes des pays africains dès les années 60, toutes rejetées, au nom toujours de ce même principe, l'inaliénabilité des collections françaises. Mais pour Felwine Sarr, écrivain, économiste et co-auteur d'un rapport commandé par Emmanuel Macron sur la restitution du patrimoine culturel africain, le droit français n'est pas un obstacle. Dans son rapport, il propose une alternative.
Bénédicte et moi avions proposé une loi cadre qui préserve l'inaliénabilité des collections françaises, mais qui extrait de ces collections françaises des biens qui ont été pris de manière problématique lors du fait colonial. Et donc, on peut le faire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y aura une autre demande, il faudra retourner à l'Assemblée, refaire le débat, revoter une loi pour un cas spécifique. Ce n'est pas jouable à long terme. Et ça indique que le volet législatif de la volonté de restituer n'est pas à la hauteur de l'ambition affichée. Il faut une loi cadre.
Cette loi cadre pourrait concerner les 46 000 objets africains arrivés en France pendant la période coloniale entre 1885 et 1960. Pour 22 000 d'entre elles, environ, le pillage ou la prise violente ont été clairement établis. Ce retour serait loin de vider les musées français puisqu'en tout, 90 000 œuvres du continent africain se trouvent dans ces collections. Madagascar, le Tchad, l'Éthiopie, le Niger et le Mali ont déjà déposé des demandes de restitution, preuve que le désir est là. Marion Laine, députée de La République En Marche, promet que cette loi d'exception pour le Bénin et le Sénégal n'est qu'une première étape.
Évidemment, il faut aller plus loin. C'est tout le sens de cette loi, justement, d'être évaluée et de voir comment on avance sur les prochaines restitutions.
Prochaine étape incontournable, l'examen de cette loi par le Sénat mercredi prochain pour acter cette première restitution qui représente moins d'1% du patrimoine béninois conservé en France. Paris aura ensuite 365 jours pour effectivement rendre ses œuvres. Pour les autres, toutes les nouvelles demandes sont pour leur examinées au cas par cas par le Quai d'Orsay. Autant dire que le grand retour du patrimoine africain annoncé par Emmanuel Macron en novembre 2017 n'est pas pour demain.
Et l'Autriche qui fait figure de modèle en matière de restitution des œuvres d'art spoliées par les nazis doit aujourd'hui répondre aux demandes de pays comme le Mexique. Ce dernier vient de demander la restitution d'une coiffe aztèque qui se trouve au Weltmuseum de Vienne. Bonjour Céline Béal, vous êtes notre correspondante en Autriche. Vienne ne va sans doute pas renvoyer cet objet d'art, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à la question de la provenance des œuvres.
Eh bien non, un transfert de cette coiffe au Mexique semble certes improbable, mais c'est surtout en raison de sa grande fragilité. C'est un objet magnifique, composé de longues plumes chatoyantes, qui a plus de 500 ans d'âge. Le musée explique qu'il ne l'a même pas transporté de sa collection permanente au premier étage vers le rez-de-chaussée à l'occasion d'une exposition actuelle consacrée aux Aztèques. En réalité, le gouvernement autrichien a même inscrit dans son programme en janvier de cette année des recherches de provenance pour les objets originaires d'ex-colonies qui se trouvent dans ces musées. C'est probablement sous l'impulsion des Verts qui sont arrivés au pouvoir aux côtés des conservateurs du parti chrétien-démocrate. Ce projet n'a cependant pas encore été concrétisé sous la forme d'une loi.
L'Autriche a déjà une longue pratique des restitutions d'œuvres d'art spoliées par les nazis. Pourquoi dit-on que c'est un modèle ?
La spécificité de l'Autriche, c'est qu'on y effectue systématiquement des recherches sur la provenance des collections qui sont en la possession de la République. Cela n'a pas toujours été le cas. En 1998, les autorités américaines avaient dû attendre que deux tableaux du peintre Egon Schiele soient de passage à New York à l'occasion d'une exposition temporaire pour s'en saisir. Les héritiers américains des anciens propriétaires de ces tableaux, qui étaient juifs et persécutés par les nazis, en demandaient en effet la restitution. C'est cette affaire qui avait mis la machine en route et qui avait forcé l'Autriche à reconsidérer son passé nazi sous l'angle très concret de toutes ses œuvres dont elle tire encore aujourd'hui un profit tant symbolique que financier. Une loi de restitution a donc été votée en 1998. Dans le système autrichien, ce ne sont pas les anciens propriétaires ou leurs descendants qui doivent dorénavant entreprendre des démarches. Il y a une équipe d'une vingtaine de spécialistes qui enquête en continu dans les musées sur la manière exacte dont les œuvres se sont retrouvées là. Ils établissent des dossiers qui sont ensuite étudiés par une commission qui se réunit 3 ou 4 fois par an. Elle tranche sur les propriétaires légitimes selon les modalités strictes de la loi de restitution. En plus de 20 ans d'existence, cette commission a restitué des dizaines de milliers d'objets.
Et certains d'entre eux sont très célèbres.
Oui, par exemple le portrait tout en dorure d'Adèle Bloch-Bauer par Gustav Klimt, qui se trouve maintenant dans un musée à New York. Mais aujourd'hui, les experts s'occupent davantage de biens culturels un peu plus anodins, mais qui sont aussi couverts par la loi. Le 25 septembre dernier, la commission s'est par exemple prononcée pour que 51 esquisses de décors et de costumes, qui étaient jusqu'ici au musée du théâtre, soient rendues à la famille de Wilhelm Berman. C'était le directeur d'un atelier d'art décoratif, il était juif, les autorités national-socialistes s'étaient saisi de ses possessions en 1938 avant de le déporter.
Un système efficace, on le voit, Céline, mais qui pourrait encore s'étendre à d'autres collections.
Alors évidemment, il a également ses limites ce système. Le consistoire juif de Vienne demande depuis des années que la législation soit élargie afin que les collections du grand musée Léopold y soient également soumises. Ce sont des collections d'un collectionneur privé, mais elles sont très subventionnées. D'ailleurs, ce sont des tableaux du Léopold qui avaient provoqué la prise de conscience à New York en 1998. L'extension de la loi de restitution à ce musée figure maintenant au programme du gouvernement, au même titre que l'art colonial, comme nous l'évoquions tout à l'heure. Donc c'est une affaire à suivre.
Merci Céline Béal. C'est C'est une querelle qui dure depuis 2 siècles. Les marbres du Parthénon, l'un des joyaux du British Museum de Londres, sont réclamés par Athènes. Les sculptures qui se trouvaient sur l'acropole ont été enlevées par Lord Elgin, diplomate britannique au 19e siècle. Même l'UNESCO n'arrive pas à mettre sur pied une médiation. Retour sur les origines du différend avec Joël Bronner à Athènes.
Depuis la naissance de l'État grec moderne, après 1821, Athènes a, semble-t-il, toujours souhaité récupérer les marbres du Parthénon conservés au British Museum de Londres. Mais l'affaire est devenue médiatique à partir des années 80, lorsque Mélina Mercouri, une actrice devenue ministre de la Culture, s'est mise à l'exprimer haut et fort, comme dans cette interview télévisée.
Que signifie Shakespeare et la cathédrale Saint-Paul de Londres pour l'Angleterre? Que signifie le Taj Mahal pour l'Inde? Que signifient les peintures de la chapelle Sixtine pour l'Italie? Les marbres du Parthénon sont notre fierté. Ils sont notre identité.
Les vestiges du temple du Parthénon, sur la colline de l'Acropole, sont en effet aujourd'hui le symbole de la ville d'Athènes. Son histoire démarre au 5e siècle avant notre ère. Les guerres médiques viennent alors de s'achever par la victoire des Grecs sur les Perses. Malgré la victoire, l'Acropole, elle, a été largement ravagée.
Périclès, qui est le chef politique de cette époque à Athènes, profite de cette destruction pour, en quelque sorte, faire table rase du passé et promouvoir un art complètement novateur, qui va donner lieu à des innovations majeures en architecture et à des innovations majeures en sculpture.
Véronique Chankowski est la directrice de l'École française d'Athènes, établissement de recherche consacré à l'étude de l'hellénisme, notamment du point de vue archéologique.
Le Parthénon, il est vraiment emblématique de ces innovations. C'est la première fois que l'on porte à ce degré d'excellence la représentation des corps humains. Tout ce décor sculpté du Parthénon invente une nouvelle manière de représenter l'image des dieux et une nouvelle manière d'exprimer le langage de la mythologie.
Symbole de ce que l'on appelle aujourd'hui le classicisme, le Parthénon dispose alors d'un décor sculpté exceptionnellement riche. À l'image des frontons qui surplombent les deux entrées du monument, des métopes, c'est-à-dire la série de panneaux qui coiffent les colonnes et constituent le décor extérieur, ou encore de la frise dite des Panathénées, du nom de festivités religieuses athéniennes. Au fil des siècles, le temple tombe progressivement en désuétude et de nombreuses œuvres sont endommagées. Au début du 19e siècle, l'État grec moderne n'existe pas, Athènes appartient à l'Empire ottoman et un diplomate britannique, Lord Elgin, obtient l'autorisation de se rendre sur l'Acropole, alors forteresse militaire, pour notamment étudier les œuvres du Parthénon. Les sources fiables manquent pour savoir quelles étaient les limites de cette autorisation et si Elgin aurait ou non payé pour prendre possession de ces vieilles pierres qui, à l'époque, n'intéressait pas grand monde à part les érudits et quelques marchands. Mais il n'est pas interdit de penser que le diplomate ait su tirer parti de la situation.
Elgin utilise cette autorisation qu'il a obtenue pour des travaux et des études sur l'Acropole en 1801-1802 pour enlever la majeure partie du décor sculpté encore existant. C'est-à-dire une grande partie des métopes, une grande partie des plaques de la frise des Panathénées et plusieurs statues des frontons. Et c'est beaucoup plus tard, en 1816, que le Parlement britannique légitime l'achat par le British Museum de ses œuvres à Lord Elgin.
Malgré l'autorisation ottomane puis le rachat des œuvres par le British Museum, Athènes considère avoir été volée. L'actuelle ministre de la Culture, Lina Mendoni, archéologue de formation, n'hésite d'ailleurs pas à parler de pillage. Devant l'impasse politique, certaines personnalités publiques aussi se sont emparées du sujet, à l'image de l'animateur télé franco-grec Nikos Aliagas, qui a participé à une campagne après l'ouverture d'un nouveau musée de l'Acropole à Athènes en 2009.
La majorité des sculptures du Parthénon, qui faisaient à l'origine partie intégrante du temple, sont maintenant basées à Londres. Ce que demande la Grèce, concrètement, et tous les Grecs, c'est qu'après 2 siècles, le retour des sculptures du Parthénon sur leur site d'origine soit effectif.
Une chose est sûre, si personne ne met d'eau dans son hectare, hommes et dieux hébergés à Londres ont peu de chances d'être de retour en Grèce pour le bicentenaire de l'indépendance du pays l'an prochain.
But you are just as one.
À quelques jours de la fête d'Halloween, on a choisi de vous parler de sorcières dans Accent d'Europe, un terme qui n'est pas employé de façon anodine et qui a beaucoup servi à décrédibiliser des femmes de pouvoir. La preuve avec le mot witch en anglais, la sorcière. On retrouve Marie Billon, notre correspondante à Londres. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Marie, le mot witch est un mot très ancien.
Ah oui, c'est un mot qui, contrairement à beaucoup dans la langue anglaise, n'est pas inspiré du français normand, importé par les invasions normandes en 1066. C'est ce qu'explique Richard North, professeur d'ancien anglais à l'université UCL de Londres.
Le mot « witch » provient du vieil anglais qu'on a parlé des années 700 à 1100. Alors, ça s'écrivait différemment. W-I-C-C-E. Mais ça se prononce presque pareil. « Witch ». Ça, c'est le féminin. Pour le masculin, c'était « witcha ». L'orthographe a changé après les invasions normandes. Pendant la dynastie angevine, au XIIe siècle, on a cessé d'utiliser l'orthographe indigène pour préférer la normande, d'où witch, avec TCH à la fin. Mais le sens du mot lui-même n'a pas beaucoup évolué.
Sauf qu'il y avait clairement un masculin, sorcière, sorcier, qui n'existe plus trop aujourd'hui. Une femme est une witch, un homme est un sorcereur.
Ça commence vers la fin du XIe, début XIIe siècle. L'adoption d'un mot à la française montre le besoin de faire une distinction liée au genre. C'est peut-être un peu de la misogynie. Dans la légende arthurienne, Merlin est un wizard, un enchanteur. Il y a aussi une sorcière, Morgane Le Fay, qui est censée apprendre son art de Merlin. Donc il y a déjà cette idée sexiste qu'une femme a moins de capacité qu'un homme.
Et Morgane évoluera pour devenir un personnage ambivalent, voire carrément méchant, tandis que Merlin l'enchanteur reste une force du bien.
Mais en vieil anglais, il y avait un mot pour dire « witch » au masculin, et c'était « witcha ».
Effectivement, il y avait des hommes sorcières dans la tradition scandinave, les invasions dites vikings, et même le fait que des rois vikings ont régné sur l'Angleterre au XIe siècle, fait qu'il y avait potentiellement des « witcha » ici. Mais selon le professeur North, il y avait malgré tout une notion de féminité.
En Scandinavie, la plupart des « witch » étaient des hommes, pas des femmes. Mais apparemment, ils étaient des travestis ou des transsexuels, c'est pas très clair. Mais ils étaient en tout cas habillés en habits féminins.
Par contre, ces witches et witcha étaient complètement intégrés à la société, dit le professeur. Les femmes n'avaient pas la réputation d'être laides, par exemple. Ni les hommes ni les femmes n'étaient mauvais. Leur présence était normalisée dans la société. C'est le christianisme qui a changé tout ça. Les moines qui ont écrit les chroniques, qui ont inspiré le livre d'histoire, dénonçaient la sorcellerie. Et quand la Bible a été traduite en vieil anglais, dit le professeur North, le mot non-genré, sorcier, sorcière, est devenu witché, donc féminin. À partir de là, les sorcières sont devenues de plus en plus mortifères. Ce sont les Écossais qui étaient le plus obsédés par elle. Le roi James VI d'Écosse, qui deviendra James Ier d'Angleterre, a écrit un livre sur la démonologie et craignait particulièrement les sorcières. C'est de lui que Shakespeare s'est inspiré pour créer les sorcières de Macbeth, encore une fois des femmes.
Et aujourd'hui encore, le mot « witch » est utilisé contre les femmes politiques notamment.
Oui, on ne les brûle plus au bûcher, mais on les coiffe au poteau. Cette chanson du magicien d'Oz, Ding Dong, la sorcière est morte, date de 1939, mais en 2013, elle a été classée numéro 2 dans l'équivalent britannique du hit parade. Pourquoi ? Parce que les détracteurs de Margaret Thatcher, l'ex-première ministre, l'a chantée lors de son décès cette année-là. Witch a même parfois été remplacé par un autre mot quasi identique, sinon sa lettre initiale qui est devenue un B, soit bitch, littéralement une salope. On le voit clairement, le côté misogyne du mot witch n'a pas perdu son éclat.
Merci Marie Billon à Londres. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.